Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas sans écho d'ailleurs avec ce sujet, c'est le petit breton à la caméra rouge. Le petit breton à la caméra rouge, c'est René Vautier qui, je crois, célèbre ses 86 ans ces jours-ci. René Vautier, le cinéaste René Vautier, qui est l'auteur d'un film qui s'appelle Afrique 50, tourné en 1949. Et qui dénonce, quoi donc, le colonialisme. C'est un film court, tout à fait extraordinaire, parce qu'il témoigne de cette époque où, ma foi, le colonialisme, ben, ça allait de soi, c'était tout à fait admis, c'était la mission civilisatrice de la France, et il n'y avait pas tellement à rechigner. Alors, il y avait quand même... il y a toujours eu un certain anticolonialisme, hein, de différentes... plus ou moins puissant, plus ou moins fort. Et là, c'était le début de cette vague qui allait emporter, les indépendances, et puis ce retournement complet. Aujourd'hui, le racisme colonial est aussi unanimement rejeté qu'il fut unanimement accepté. Mais bien sûr, ce retournement complet a de multiples causes, mais dans ce retournement, il y a le rôle d'intellectuels, d'observateurs, de gens engagés, comme le cinéaste René Vautier. Son film a été interdit pendant 50 ans. Ouais, 50 ans, ce film a été interdit. On va en entendre des extraits. Et il ressort dans un bouquin qui s'appelle Afrique 50, un livre-film, avec ce film interdit, censuré pendant 50 ans, plus d'autres films qui racontent la suite de cette histoire. Cette histoire n'est pas terminée, même si en principe c'est terminé, mais il y a d'autres inégalités qui domine aujourd'hui, et avec le récit de cette histoire. René Vautier a fait beaucoup d'autres films dans sa vie, notamment Ils ont eu 20 ans dans les Aurès, qui est un très beau film, et beaucoup d'autres. On va évoquer tout ça avec lui. C'est plutôt François Ruffin qui lui a rendu visite. Et donc voilà, une heure avec le petit breton à la caméra.
Le petit breton est arrivé à Dakar avec sa caméra rouge et est arrivé pour faire des images pour les écoliers de France pour qu'ils sachent comment vivaient les gens en Afrique. Les images de la misère du peuple d'Afrique.
Je découvre ce qui se cachait sous l'étiquette « Mission civilisatrice de la France ».
Mais ceux qui ne voulaient pas que les Français connaissent la vraie vie que devaient vivre les Africains n'étaient pas contents.
Le gouverneur disait que je l'avais giflé, parce qu'il m'avait traité de jeune con. Mais je ne pense pas que la gifle lui était arrivée sur la figure. J'avais fait le geste. Et puis je rentre, et puis je tombe sur un gars qui est en train de fouiller mes bagages. Et puis on se bagarre. Je balance par la fenêtre. Il part en tirant des coups de feu en l'air. Bon, voilà.
C'était un policier?
Oui.
Donc vous, quand vous voyez un policier qui est en train de faire une perquisition dans votre sac, ouais, vous bagarrez avec lui, puis vous, ouais, le jetez par la fenêtre.
C'est ça, oui. Oui.
Ça, c'est pas possible. Il n'y a que dans les films ou dans les bandes dessinées qu'on voit ça.
Ben voilà, ça s'est passé comme ça. Je filme ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base, j'y suis avec François Ruffin, René Vautier, le petit breton à la caméra rouge.
Flight number 2, arriving from New York.
Daniel, on se trouve à un cancale en Bretagne, juste au-dessus de la baie, avec le drapeau breton, le drapeau français et le drapeau européen qui flottent tous trois sur la mer, les petits bateaux dans le port, et on va rencontrer le petit breton au chapeau rond, René Vautier. Pendant les vacances, j'ai lu le livre DVD Afrique 50, Et là, je viens de lire de René Vautier « Caméra citoyenne ». Et c'est vraiment Tintin. Mais un Tintin qui serait pas belge, qui serait breton, qui serait souvent en colère, et qui en plus serait de gauche, qui anticolonialise contre les militaires.
Bonjour. Excusez-moi pour le retard. Je me suis trompé en... À Saint-Malo, je me suis trompé de direction.
Ah bon?
Seuls blancs qui sont entrés avant toi dans ce village sont ou bien l'administrateur qui venait prendre l'argent pour l'impôt, ou bien le recruteur qui venait prendre les hommes pour l'armée. Aussi le village se méfie. Mais chez les enfants, la curiosité est plus forte que la crainte. Suis-les. Tu verras des choses très pittoresques, sans doute. Mais peu à peu, tu te rendras compte que ce pittoresque cache mal une grande misère. Il y a place dans les écoles d'Afrique noire pour 4% des enfants d'âge scolaire. Juste le pourcentage suffisant pour que l'administration ait des greffiers et les compagnies coloniales des comptables. Les gosses jouent, une coquille d'escargot remplace la toupie, ou une courge remplace le ballon. Tu t'étonnes de voir un village sans école, sans médecin. En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales risquent de manquer de main-d'œuvre. Mais ce village a encore de la chance dans sa misère, il est en paix.
Il y a bon banania. Il y a bon banania. On rigolait déjà à l'époque avec banania. Mais il y avait aussi bamboula. Bamboula, c'était une marque de cirage. Et il y avait aussi La négresse apprivoisée, le roman vécu d'une fille de couleur à travers le monde de la danse et du plaisir. Voilà quelques effets des bienfaits de la civilisation auprès des races inférieures. Aujourd'hui, je le disais en commençant, ce racisme colonial est rejeté, totalement ou presque, ou du moins il a changé de forme, il a changé de lieu, mais celui-là, il est rejeté, le racisme colonial, et il fut unanimement accepté, et ce retournement a des causes multiples, mais en voilà une des causes, le travail et l'œuvre, on peut dire l'œuvre, de René Vautier, qui est un franc-tireur de l'anticolonialisme avec ce film tourné en 1949, le premier film anticolonial. Alors, bien sûr, vous connaissez les formules, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est plus compliqué que ça, vous êtes caricatural. Vautier, non, il fait dans le, soit le noir, soit le blanc. Il fait, oui, c'est pas si compliqué que ça. Il a trouvé l'explication, il l'a découverte physiquement. Vous allez comprendre comment. Il va là-bas, il est envoyé par les éclaireurs de France à l'époque, l'éducation populaire, très important l'éducation populaire. On reviendra sur ces notions, on en revient de temps en temps dessus, dans là-bas si j'y suis. Et puis ça va être la découverte d'un jeune homme, le jeune homme qu'il est, qui va découvrir les réalités, qui va découvrir, deviner, découvrir les ressorts du colonialisme et de l'habillage du colonialisme. L'habillage du colonialisme, c'était l'orientalisme, c'était les mystères de l'Orient, c'était les récits de voyage, des érudits, des artistes. Ah oui, et les femmes d'Alger, de Delacroix, et les voyages de Flaubert et d'autres, tout ça, ça a habillé ce colonialisme. Nègre, pauvre nègre, tu me fais pitié, tu me fais pleurer, nègre, pauvre nègre, je vais t'aider, je suis là pour t'éclairer, je t'apprendrai à écrire sur le tableau noir. Travail, famille, patrie. Et puis je t'apprendrai à lire Nègre, pauvre nègre, je t'apprendrai à lire nos grands auteurs, je t'apprendrai à lire Montaigne, je t'apprendrai à lire Diderot, je t'apprendrai à lire tous nos auteurs à nous, et petit à petit tu verras, nègre, pauvre nègre, sur ta peau, des petits points blancs qui vont s'agrandir. Et un jour, nègre, pauvre nègre, tu seras comme nous, tu seras civilisé. C'est ça notre mission. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Merci à toi, comme tu es gentil. Nègre, pauvre nègre. C'est presque dans cet esprit-là que partait Vautier à cette époque en 1948-49. Il est revenu avec ce film, il est revenu tout changer. Et toute sa vie, il a été cet homme, ce franc-tireur radical qui pensait qu'il fallait regarder le monde si on voulait le changer. C'est jusqu'à 16h, ou presque, c'est là-bas si j'y suis.
Coloniale, quand tout sera démoli, laissera dans la capitale un bobard vraiment joli. Si vous trouvez dans la rue un raseur, un créancier, pour abréger l'entrevue, il y aura qu'à lui chanter. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies, en Afrique, en Asie, chez le Raja ou le Sultan? Le lion, ça ne peut pas te faire peur, c'est plus doux que le percepteur. L'éléphant, c'est un peu gros, mais ça sert moins que le métro. La girafe, c'est mal fichu, mais on sèche son linge dessus. Et un serpent, c'est moins méchant que ta femme qui gueule tout le temps. Qu'est-ce que t'attends pour aller aux colonies? Là-bas, c'est la belle vie, mais reste-y longtemps.
Monsieur Vautier, moi, je viens vous voir parce que pendant l'été, j'ai lu Afrique 50, le texte que vous avez publié avec. Ensuite, je viens de lire là, ce week-end, Caméra citoyenne.
Oui.
J'ai adoré ça, parce que quand j'étais petit, j'adorais Tintin. Et je trouve qu'il y a là-dedans un vrai côté Tintin au Congo, sauf que vous, vous êtes breton à la place d'être belge. Vous avez une caméra alors que Tintin est supposé avoir un stylo. Et surtout, vous êtes de gauche. Là où Tintin n'a pour adversaire que Rastapopoulos, vous, vous avez tout le monde en même temps. Vous avez les militaires, les policiers, les juges, les ministres, les firmes, enfin, donc...
Oui, mais j'ai en même temps, de mon côté aussi, les gens qui se battent pour qu'une certaine vérité soit dite et qui n'est pas la vérité officielle.
Quand vous commencez à Afrique 50, vous avez 20 ans, 21 ans,
ouais.
Vous sortez à peine de l'école de cinéma.
Ouais.
Et là, quand on lit votre récit, je disais Tintin, mais on est vraiment dans des images de bande dessinée. Vous vous bagarrez avec un policier, vous vous êtes emprisonné, vous vous échappez, vous vous déguisez, vous vous cachez. Ça fait penser soit aux Indiana Jones, dans un autre registre cinématographique que le vôtre, ou au film de Belmondo, genre L'Homme de Rio. Enfin, il y a des tas d'aventures qui arrivent comme ça, sur un temps relativement resserré. Comment vous avez été embauché pour faire ce travail ?
C'est les Éclaireurs de France qui envoyaient une équipe pour tourner. Il y avait d'une part un film, d'autre part on faisait une enquête sur les rapports entre la France et les colonies françaises.
C'est vraiment une aventure de Boy Scout au départ.
Oui, je partais là-bas avec des gens qui... Il y avait un photographe, il y avait un peintre, il y avait un historien, il y avait des tas de gens, tous éclaireurs de France, et qui devait ramener des documents sur la vie des paysans en Afrique occidentale française. Et puis je suis tombé sur des choses qui ne correspondaient pas du tout à ce que je m'imaginais au départ.
De la Méditerranée au golfe de Guinée, sur un magnifique domaine deux fois grand comme l'Europe, la France partage avec son empire des richesses inestimables. Que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique occidentale.
Actualité française, 30 octobre 1942.
La France a voulu que son œuvre civilisatrice ne se traduise pas seulement dans des faits matériels, mais aussi dans le domaine intellectuel et spirituel. L'éducation des jeunes est au premier rang des soucis des colonisateurs. C'est demain, avec le concours de cette génération indigène éduquée et formée par la France, que nous pourrons poursuivre les grands projets qui feront de l'Empire français en Afrique le plus beau fleuron de notre couronne impériale.
Vous allez en Afrique.
Je vais en Afrique.
Avec votre bande de scouts.
Avec ma bande de scouts.
Et vous découvrez la mission civilisatrice de la France.
Et je découvre ce qui se cachait sous l'étiquette « Mission civilisatrice de la France ». J'ai été choqué lorsque je tournais des vues du barrage de Marcalas en Sandagne, qui était à l'époque le barrage « La France construit en Afrique des choses qui peuvent être utiles à tous les Africains ». Je discutais avec un des responsables, un ingénieur responsable du barrage. Je dis, mais les gars qui travaillent, ils sont réellement payés? Il dit, bon, ben, c'est pas un salaire qui est comparable à un salaire de blanc. Ah, déjà, la notion salaire de noir, salaire de blanc, ça m'avait un petit peu choqué. J'ai dit, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Il dit, oh ben, ils acceptent, hein, ils font le boulot, là. Je dis, mais il n'y a pas, ils ne se défendent pas, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de... Il dit, oh là, il y a des gars qui ont essayé, des Noirs qui ont essayé de monter un syndicat, là, mais on leur a monté une affaire. Et je dis, monter une affaire, ça veut dire quoi? Il dit, bon, ben, on a pris du matériel qu'on a caché chez l'un des responsables de ceux qui essayaient de monter un syndicat. La police a découvert ce matériel, donc ils ont été condamnés. Ça a un petit peu dompté les autres. À partir de ce moment-là, j'ai dit, moi, ce que je veux montrer, c'est qu'on peut donner la parole à ces gens-là pour qu'ils puissent s'exprimer. Et à partir de ce moment-là, mes ennuis ont commencé.
Vous êtes fait un peu retirer les bretelles par le responsable du groupe des Éclaireurs de France.
Je brise carrément en disant, moi, j'ai un film à faire, je vais faire le film à ma façon.
Vous avez été convoqué par le gouverneur ?
Oui, convoqué par le gouverneur qui m'a dit que c'était impensable que je fasse des choses qui critiquent l'attitude française là, que je suis là pour montrer la présence française qui permet d'élever le niveau de vie des Africains en leur donnant du travail, en leur donnant... Et j'ai dit, je filme ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Bon.
C'est une phrase de Éluard.
C'est un texte d'Éluard, oui. Le gouverneur disait que je l'avais giflé parce qu'il m'avait traité de jeune con. Mais je ne pense pas que la gifle lui était arrivée sur la figure. J'avais fait le geste de le gifler, c'est vrai, quoi. Il y a des policiers qui sont venus m'interroger et je leur ai expliqué tout ça, quoi. Il y avait un policier africain qui m'a dit, moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Maintenant, si j'ai un conseil à vous donner, quittez Bamako, descendez et allez voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là que la révolte prend naissance.
Ici se trouvait le village de Palaka, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le chef du village n'a pu payer un reliquat d'impôt, 3700 francs. Le 27 février 1949, à 5h du matin, les troupes sont venues. Elles ont cerné le village, elles ont tiré, elles ont brûlé, elles ont tué. Ici, le chef de village, Sikali Ouattara, a été enfumé et abattu d'une balle dans la nuque, d'une balle française. Ici, une enfant de 7 mois a été tuée, une balle française lui a fait sauter le crâne. Ici, du sang sur le mur, une femme enceinte est venue mourir, deux balles françaises dans le ventre. Sous cette terre d'Afrique, 4 cadavres, 3 hommes, 1 femme, assassinés en notre nom à nous, gens de France.
Donc après avoir failli gifler le gouverneur,
ouais,
avoir été mis en demeure par les autorités, avoir fui clandestinement Bamako, vous arrivez en Côte d'Ivoire.
Et là, je descends et les Africains m'ont dit, mais regarde, voilà, on va suivre la colonne, là, et c'était une colonne de répression.
C'est-à-dire que vous, vous descendez vers Abidjan, en Côte d'Ivoire,
oui,
et vous suivez là des troupes françaises qui sont à distance.
Sont 2 jours, 3 jours avant nous, les villages qui avaient refusé de payer l'impôt. Et je filme les villages détruits. J'arrive dans des villages où il y a des gens qui, effectivement, m'ouvrent les tombes, les gars, pour dire, voilà, qui me montrent les traces de balles sur les murs, qui me montrent le... Je n'invente pas, c'est...
Je trouve que là, il y a quelque chose qui est poignant, qui vous êtes à ce moment-là. Vous êtes un jeune Français qui sort de la résistance,
oui.
Qui a vu son pays occupé.
Oui. Et qui est révolté par l'attitude de la France vis-à-vis des Africains, qui est une attitude de domination par les armes. Et là, j'admets pas. Et je filme. Et je veux montrer ça en France après. Et je le dis pendant mon trajet là-bas, je dis aux Africains, montrez-moi des choses que je puisse transmettre en France, parce que ce n'est pas les Français qui veulent ça. C'est une administration ici qui ne rend même plus compte en France de ce qu'elle fait.
La France, vous l'avez défendue pendant la guerre.
Oui.
Le drapeau tricolore, vous l'avez peut-être brandi à la Libération.
Oui, mais pendant la guerre, les gars contre lesquels je me battais, ce n'était pas seulement les Allemands, c'était aussi le pouvoir de Pétain. C'était aussi Pierre Laval. J'étais révolté à la fois par le fait que c'était des Français qui le faisaient, mais en même temps, j'étais le gars qui, en France, s'était battu aussi contre un pouvoir français au service des Allemands. Mmh. Et là, je m'apercevais que il y avait une dichotomie complète entre ma France et la leur, quoi.
Mais donc, on a l'impression, en suivant la colonne Folie des Jardins en Afrique,
oui.
De retrouver le travail qu'ont pu faire les Waffen-SS à Oradour-sur-Glane.
Oui, absolument, oui. C'était ça pour moi, c'était je retrouvais une répression semblable à celle que les Allemands avaient menée en France contre les résistants français. Je voulais refléter la chose vue côté avec l'œil des résistants. En même temps, je me disais aussi... C'est pas possible que ce soit la France qui commande ça. La colonne de Folie des Jardins, elle n'a pas de l'ordre d'agir comme ça. Et donc c'est un gars qui est devenu fou. Et j'ai été le dire au gouverneur de Côte d'Ivoire.
Vous étiez tellement convaincu que ça ne pouvait pas être votre France qui fasse ça,
ouais.
Que vous vous êtes dit, c'est juste un militaire qui est devenu dingue,
ouais.
Il faut que je le dise aux autorités pour qu'elles l'arrêtent.
Voilà.
Quand Tintin Vautier va voir le gouverneur de Côte d'Ivoire en lui disant, écoutez, il y a l'un de vos officiers, il a l'air d'avoir un grain parce qu'il est en train de
il
détruire.
Il est fou, quoi. J'ai dit, il est fou. Et en plus, alors, ça me faisait marrer parce qu'il s'appelait Folie des Jardins.
C'est comme si vous étiez allé vous dénoncer de vous-même aux autorités.
Ouais. Oui. Et puis je rentre, et puis je tombe sur un gars qui est en train de fouiller mes bagages.
Vous rentrez chez vous ?
Oui.
Dans votre chambre ?
Un gars qui est en train de fouiller mes bagages. Je me dis très ouvertement, j'ai l'ordre de saisir tout votre matériel. Et puis on se bagarre, je le balance par la fenêtre. Il part en tirant des coups de feu en l'air, dans la rue. Bon, voilà.
C'était un policier ?
C'était un policier qui a sorti son arme... en dégringolant dans la rue au milieu des Africains et qui a sorti son revolver et qui s'est mis à tirer en l'air. Il paraît qu'il avait un bras cassé.
Donc vous, quand vous voyez un policier qui est en train de faire une perquisition dans votre sac,
ouais.
vous bagarrez avec lui puis ouais. Vous le jetez par la fenêtre.
C'est ça, oui. Oui. 20 ans.
Tout le monde n'est pas de la racaille comme ça à 20 ans.
Moi, j'étais comme ça, quoi. Voilà. Persuadé que là, le représentant de la France, c'était moi, quoi. J'étais arrivé à penser ça. Pour les Africains, j'étais le monsieur qui allait dire en France ce qui se passait réellement là-bas.
C'est encore pire que De Gaulle à Londres, vous.
Oui, peut-être, oui.
Oui, oui, la résistance a joué un rôle très très important dans le développement de l'anticolonialisme. On ne pouvait pas avoir résisté héroïquement et avoir héroïsé la résistance contre l'envahisseur allemand, nazi, sans par la suite se dire que, après tout, il y avait un certain nombre de peuples dans le monde qui, eux aussi, subissaient une occupation, une domination, une colonisation, et qu'ils avaient tout à fait le droit, eux aussi, à résister et à devenir indépendants. Ça a été le cas de ceux qui ont soutenu les mouvements d'indépendance. C'était le cas de Vautier. Il a une longue histoire. On va parler que de celle-là, mais après, il faut suivre toute sa vie en Algérie, partout. Et ça a été évidemment ce qui a motivé, ça a été le moteur de ceux qui ont mené ces guerres d'indépendance à travers le monde, comme vous savez. Là, on a parlé de cette colonne Folie des Jardins, donc on est en 1949, les choses qui on vous a bien compris, ça se passe en 1949. René Vautier avait 21 ans. La voix que vous entendez, sa voix à lui, c'était il y a 65 ans qu'il a enregistré ça, qu'il a dit ça devant ces images. Mais au sujet de cette colonne, il y en a une très célèbre auparavant. En 1899, c'est la colonne Voulet-Chanoine. La colonne Voulet-Chanoine, c'est l'histoire de deux officiers français qui, avec leurs hommes, partent à la conquête du Tchad et vont tout massacrer sur leur passage. Le ministre des colonies, à l'époque, tente de les arrêter. Il envoie d'autres unités militaires pour tenter de les arrêter. Ça donne une des bagarres entre des éléments de l'armée française. Et c'est surtout une traînée de sang à travers l'Afrique, ces massacres perpétrés par la colonne Voulet-Chanoine. Ce qui est intéressant dans la... C'est un autre sujet dont je parle, mais c'est intéressant parce que ça précède celui-là. C'est que ce qui est très intéressant, c'est comment l'opinion admettait très bien que la soumission de l'Afrique s'accompagne de telles tueries. Et ce qui nous encourage, ce qui est très encourageant dans cette histoire du retournement et de la disparition du colonialisme, c'est que ça a été très longtemps une évidence, ça allait de soi, c'était nécessaire, c'était même bien, c'était beau, etc. Et ça s'est totalement retourné. Donc, pour certaines convictions, vous voyez ce que je veux dire, ben, on peut espérer que les choses, un beau jour, une belle nuit, un beau matin, se retournent. On continue avec René Vautier, interrogé par François Ruffin.
Vous êtes arrivé au Mali, vous avez dû fuir le Mali. Vous êtes ensuite allé en Côte d'Ivoire, vous vous bagarrez avec un policier, vous lui cassez le bras, il tombe par la fenêtre. Ouais. Vous devez fuir Abidjan, ouais, et la Côte d'Ivoire. Ouais. Là, vous ne dites pas, c'est tout, je retourne en France, j'en ai assez.
Ah non, j'arrive à la limite de la Haute-Volta, qui était le nom de...
Du Burkina Faso.
Du Burkina Faso, à l'époque, oui. Et puis, Bonglode, je sors avec ma pellicule. Avec
Bonglode, ça veut dire quoi, Bonglode?
Bonglode, c'est un gars pas très intelligent, gentil, quoi.
Un brave gars, alors.
Un brave gars, ouais. Ouais, j'arrive là-bas, et puis je dis, bon, ben maintenant, je veux voir où est un Koulibaly. Et on m'arrête immédiatement. J'étais peut-être un petit peu attendu aussi. Et on m'emmène à la direction de la sûreté. Et puis, j'ai l'extrême surprise de voir arriver à la direction de la sûreté où on m'interrogeait une foule hurlante qui réclame la libération de Vautier et qui était menée par Voisin Koulibaly. Et les gars, affolés, sortent leurs revolvers, reculent dans l'escalier, nous laissent le rez-de-chaussée. Là, les gars me disent, c'est à toi la caméra. Là, je dis, oui, la pellicule, c'est dans mon sac. Là, c'est dans... Bon, on prend tout ça.
Vous avez été libéré par les masses.
Et je filme. Et on a un truc de soutien à Vautier qui se tient sur la place. Il y avait des policiers qui ont été envoyés pour me piquer dès que la manifestation serait finie, pour me ramener au commissariat. Les gars me disent, on va te sortir de là, n'en fais pas. Et on me colle dans un petit truc sous les sacs de noix de cola, dans une petite charrette là. Et je suis passé comme ça au milieu des flics français qui attendaient pour m'arrêter.
Bon. Donc vous êtes libéré par les masses qui vous font échapper du commissariat.
Oui.
Et puis ensuite, on vous cache sous des sacs de noix dans une charrette.
Ouais.
Ça, c'est pas possible. Il n'y a que dans les films ou dans les bandes dessinées qu'on voit ça.
Ben voilà, ça s'est passé comme ça.
On se dit, vous étiez habité par une saine colère.
Ouais.
Vous étiez plein d'authenticité, de spontanéité, mais vous n'étiez quand même pas très malin.
Non. C'est vrai, j'ai jamais essayé de cacher ce que je voulais faire.
Quand même, vous auriez pu avoir les mêmes images, peut-être même plus d'images,
oui,
plus de témoignages. mais en étant un petit peu plus malin, un petit peu plus retors, un petit peu plus hypocrite, en temps en temps caressant l'ordre colonial dans le sens du poil.
Est-ce que si j'avais été comme ça, les Africains m'auraient raconté leurs histoires? Non.
Il paraît qu'il existe, au-delà des mers, des rouleaux compresseurs qui sont des machines fort utiles pour faire les routes. Mais en Afrique, pas besoin de rouleaux compresseurs. Les noirs reviennent moins chers. Les revenus de l'Ossieur et d'Unilever montent en flèche. Perfectionner l'équipement, à quoi bon? Une machine ferait le travail de 20 noirs, bien sûr, mais 20 noirs à 50 francs par jour reviennent moins chers qu'une machine. Alors usons le noir. D'ailleurs, le forgeron est sur place pour réparer les instruments et pour en fabriquer d'autres. Et ses fils peuvent l'aider. Une école? Pas besoin de savoir lire pour faire marcher ce soufflet 16 heures par jour. Un proverbe soudanais dit « Quand le bousier roule sa boule, il peine, mais c'est pour garnir son grenier. Quand les noirs peinent sous le soleil d'Afrique, c'est toujours pour garnir le coffre-fort des grosses compagnies coloniales. »
Madame collait entre les pattes de deux infirmières, deux sœurs infirmières. Ça s'est su que j'étais chez elles. Et il y a un gars qui est venu, un de leurs copains, qui était inspecteur de police, noir, et qui est venu dire « Il faut vraiment que vous l'évacuiez parce qu'il va y avoir des fouilles ici. Et on ne peut pas le laisser arrêter chez vous. Donc, arrangez-vous pour le faire partir. » Mais il est malade à crever. Il ne peut même pas se déplacer tout seul. Démerdez-vous. Bon. Et les filles ont dit « On va l'enterrer. » Parce que le transporter blessé, même sur une civière, sur un truc, un blessé, on est obligé de voir son visage. Or, le blanc, ça se remarque quand même là. Par contre, un mort, on peut le trimballer, il est recouvert. Alors, elle dit, ouais, et puis il faut qu'il y ait des pleureuses. Et là, on m'a enterré une fois. Elle me dit, mais les policiers se mettent au garde à vous pour qu'on traverse, alors ne bouge pas. Et elle se marrait. Puis elles ont trouvé ça tellement marrant. Le lendemain, elles ont dit, j'ai jamais su si c'était vrai, mais elles ont dit, si, il faut encore qu'on le retransporte ailleurs. Bon, elles m'ont retransféré ailleurs en enterrement, quoi. C'est-à-dire que j'étais devenu leur objet.
Vous êtes devenu leur fétiche, quoi, leur porte-bonheur.
J'étais leur chose. C'est elles qui se sont arrangés pour que toute la pellicule soit répartie. Il y avait 50 bobines, et les 50 bobines sont arrivées en France par 22 voies différentes. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants, il y avait des gens qui venaient travailler en France, il y avait des trucs à qui elles ont confié la pellicule.
Là, ce que vous me racontez, c'est que finalement, d'emblée, vous en avez fait une œuvre collective, oui, de par vos maladresses presque. Pour que ce film existe, il a fallu qu'il y ait des mobilisations à Abidjan, qu'il y ait des mobilisations à Dakar, oui, qu'il y ait des mobilisations partout, oui, du Rassemblement démocratique africain.
Pas que je recherchais, mais c'est ce que raconte le poème africain qui raconte le petit blanc à la caméra rouge.
Je lis ça, c'est rapporté dans le petit livret Afrique 50. Oui. Le petit breton est arrivé à Dakar avec sa caméra rouge. Il est arrivé pour faire des images pour les écoliers de France pour qu'ils sachent comment vivaient les gens en Afrique. De Dakar à Bamako, le petit breton a fait entrer des images dans sa boîte à images. Elles entrent par la petite fenêtre. Quand la boîte sera pleine, il la ramènera en France et les images sortiront de la boîte pour aller sur des draps où les Français les regarderont. Mais ceux qui ne voulaient pas que les Français connaissent la vraie vie que devaient vivre les Africains n'étaient pas contents. Ils ont dit au petit breton à la caméra rouge « Tu ne fais pas les images qu'il faut faire. Voilà, c'est écrit dans le grand livre, ce qu'il faut montrer aux Français sur l'Afrique, mais ce n'est pas ça que tu filmes. » Alors le petit breton à la caméra rouge a dit aux Africains « Qu'est-ce qu'il faut que je ramène dans ma boîte à images ?» Et les Africains ont répondu « Toute l'injustice qu'on nous fait. » Alors le gouverneur a dit aux policiers « Prends la boîte aux images. » Et le petit breton a battu le gouverneur et a jeté le policier par la fenêtre. Le petit breton est parti de Bamako et tous les gouverneurs, les policiers, les commandants ont voulu l'attraper. Alors les sorciers d'Abidjan ont transformé le petit breton en fumée et ils ont dit au peuple d'Abidjan, soufflez sur la fumée, qu'elle parte vers la Gold Coast. Et le peuple de Gold Coast a soufflé sur la fumée pour qu'elle aille vers la Haute-Volta. Le petit breton à la caméra rouge est tombé malade. Fatou et Malou l'ont soigné, mais il est mort une fois. Alors elles l'ont enterré. Et il est revenu après avoir vaincu la mort. Alors Fatou et Malou l'ont encore soigné, mais il est encore mort, puis il est encore revenu. Trois fois la mort l'a pris, trois fois il a vaincu la mort. Et il est parti sur le grand bateau, car il était temps de montrer les images en France, les images de la misère du peuple d'Afrique. Donc ça ce sont les griots de Dakar, qui au départ, enfin, chantaient et racontaient ça, mais c'était chanté en quelle langue ?
C'était chanté pour certains en Wolof, et pour d'autres, pour celui-là par exemple, c'était chanté en baoulé.
Monsieur Vautier, là on se dit vous rentrez en France.
Oui.
Vous avez été traqué, emprisonné, vous êtes échappé, vous êtes caché sous des sacs de noix, caché par des femmes, enterré vivant. Bon, vous avez fait tout ça, on se dit bon bah voilà, ça y est, c'est fini, maintenant il va faire son film, le film va être projeté, c'est terminé, l'histoire est terminée, on est tranquille. Et boum, à peine vous êtes arrivé en France que toutes vos pellicules sont saisies.
Oui. Elles arrivent comme prévu. Il ne manquait pas une boîte sur les 22 gars qui avaient ramené les trucs dans leurs chaussettes, dans leurs slips, dans les bagages de ces gars qui rentraient comme étudiants pour la plupart. Mais tout était, avait été remis à la Ligue de l'enseignement, comme prévu. Et la Ligue de l'enseignement est cernée par les flics. Et là, les flics arrivent et saisissent le tout avec la complicité du directeur qui dit « Vous remettez tout, moi je ne veux plus entendre parler de ça. »
Tout ce travail que vous aviez fait pendant des mois, ouais, de collecter des images, caché dans des charrettes, caché, ouais, chez les Dogons, c'est ruiné en 5 minutes. Là, mais là, vous devez être complètement déprimé.
Non, je ne suis pas déprimé, je suis très en colère. Les flics font développer le film au laboratoire et exigent que je vienne signer sur chaque bobine pour dire que je suis le responsable. Je suis convoqué à la direction de la sûreté à Paris. J'écris donc sur chaque bobine. Ça prend du temps parce qu'ils projettent à chaque fois devant moi.
Vos projectionnistes à vous, ce sont les flics.
Oui, c'est ça. Et à midi, on n'a pas fini de regarder ça. Je reviens à 2 heures avec des bobines vides. Et puis, on continue la projection. Mais comme ils ne rallument pas entre chaque truc, je signe sur les bobines vides que j'ai dans mon sac et je récupère 17 bobines sur 50.
C'est-à-dire que là, ils commencent à s'endormir un peu, c'est la digestion,
ouais,
ça devient un peu routinier comme histoire,
ouais,
ils se sont mis à avoir une sorte de confiance en vous et hop, avec les bobines, ouais, vous les embobinez, vous leur refilez des boîtes vides.
Je signe sur des boîtes vides, oui. Et puis, je récupère donc 17 bobines sur 51, c'est-à-dire un petit peu plus du tiers. Et puis avec ça, je rentre à Argenteuil, chez ma maman, qui est directrice d'école maternelle. Et puis je commence le montage dans l'école. Arrivée des flics.
Encore ?
Encore, ouais, ouais. Qui veulent fouiller l'appartement de ma mère. Ma mère, les bras en croix à la porte, disant « Vous me passerez sur le corps avant de pouvoir rentrer. » Pendant ce temps-là, moi, je suis monté sur le toit avec la pellicule. Et j'ameute la population en disant aux copains, instite, allez prévenir les gens que ici j'ai des ennuis avec les flics, tous les gens me connaissent dans le quartier. Bon, finalement, il y a 500 personnes qui se réunissent. Et comme il n'y a que 6 flics et ma mère, toujours les bras étendus, un truc, et qui dit, vous me passerez sur le corps pour... Bon. Et je deviens le protégé de tout le quartier.
Donc c'est-à-dire que vous aviez eu votre manif au Burkina Faso où les masses étaient venues vous, ouais, libérer la police et après il y avait eu un meeting.
Et là, c'est exactement la même chose à Argenteuil.
Tout ça pour un film.
Tout ça pour un film.
Tu t'étonnes. Les cases brûlées, les habitants massacrés, le bétail abattu pourrissant au soleil. Ce n'est pas l'image officielle de la colonisation. Amis, la colonisation, ici comme partout, C'est le règne des vautours. Et les vautours qui se partagent l'Afrique ont des noms. Société commerciale de l'Ouest africain, 650 millions de bénéfices en 1949. Compagnie française de l'Afrique occidentale, 365 millions de bénéfices en 1949. L'Africaine française, le Niger français, la compagnie française de la Côte d'Ivoire, c'est le trust anglo-saxon Unilever, 11 milliards 500 millions de bénéfices en une année, 40 millions par jour volés aux Africains. En échange, ces missionnaires du commerce ont introduit le progrès en Afrique. Le progrès.
On se dit c'est fini, c'est bon, le film il va pouvoir être projeté sur toutes les salles de France et de Navarre, mais là encore ça se passe pas exactement comme ça.
Non, pas exactement, mais enfin, la première du film officiel a eu lieu à Quimper, à la caserne de Quimper. On assurait la formation des gars qui partaient pour l'Indochine. Et les officiers, quand ils ont appris qu'il y avait la projection d'un film anticolonialiste là, ont appelé les gars à les manifester. Et il y a une dizaine de gars qui sont venus de la caserne pour manifester là et qui se sont fait casser la gueule par les gens qui assistaient à la projection.
Ensuite, quelle vie il a eu ce film ?
Il y a une douzaine de copies qui se sont mises à circuler, tirées aux frais de mouvements de jeunes. Il y a des trucs qui ont été tirés pour les scouts de France, il y en a certains qui ont été saisis, et on s'aperçoit que le film a eu à peu près 1 million de spectateurs en France.
Votre film, sous le manteau, mais il est énormément vu. Vous, il est primé. Et pourtant, en 1951, encore, on vous le fait payer, puisqu'on vous contraint à faire un service minoritaire et à le faire en prison. Vous êtes emprisonné pendant un an.
Ouais.
En 1955, pouf, ça vous retombe à nouveau dessus. Le tribunal de Abidjan vous condamne à un an de prison en 1955. Bon, et 40 ans après, en 1989, vous recevez une lettre officielle du ministère des Affaires étrangères qui maintenant vous dit bravo, qui dit finalement... On a utilisé votre œuvre dans les pays africains notamment. On a montré votre film Afrique 50 pour bien montrer que le prestige de la France était intact puisque à cette époque-là, il y avait déjà des gens dans la jeunesse française qui étaient anticolonialistes.
Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Voilà.
Regardez le monde pour pouvoir le changer. Portrait d'un franc-tireur, René Vautier, le petit breton à la caméra rouge. C'était un reportage de François Ruffin, merci à René Vautier. Son film Afrique 50, je le disais en commençant, vient de ressortir dans un livre DVD chez les Mutins de Pangée, nos amis les Mutins de Pangée, accompagné d'un second film de Sable et de Sang, c'est le titre. Un documentaire de Michel Le Thomas avec René Vautier, mais qui traite de problèmes actuels. Ce n'est pas seulement une histoire passée, on essaye de trouver des pérennités à ces histoires, des évolutions et des choses actuelles pour pouvoir toujours les regarder si on veut les changer. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur le site là-bas.org, la-bas.org. Ainsi que sur la page Facebook de la Basse, j'y suis. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Michel Thomas. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37.